Bon, bonjour. Donc le sujet aujourd'hui, c'est nettoyer le cœur. Voilà.
1, 2, 3, 4.
Bienvenue sur Dieu et nous, un podcast pour t'aider à être plus dévotionnel et plus heureux. Cyril Vorère, Georges Thierry, à votre service. Et donc, ouais, aujourd'hui, comme tu l'as dit, le sujet nettoyer le cœur. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça?
Alors déjà, il faut parler de l'âme, en fait. Je pense que pour introduire, il faut parler de l'âme qui est jamais affectée, en fait, et qui reste toujours la même, qui ne peut, comme il dit dans la Bhagavad Gita, qui peut ni être brûlée, ni être coupée, ni être, enfin, quoi que ce soit, en fait. Donc l'âme, elle est parfaite, elle est pleine d'éternité, de félicité et de joie, en fait. Et cette âme est éternelle. Et cette âme, donc, elle demeure inaffectée. Alors, qu'est-ce qui se passe, Cyril, en fait? On peut dire que c'est l'énergie matérielle qui va recouvrir l'âme, en fait, et avec les anarthas et tout ça.
Ouais, moi, j'aimerais bien ajouter l'idée ou se rappeler que selon nos textes, les textes donc, qu'on lit, comme la Bhagavad Gita, pour ceux qui sont là pour la première fois, donc c'est ce texte primordial des traditions du yoga de l'Inde, nous sommes l'âme. Nous sommes des êtres spirituels dans des machines physiques, dans des corps physiques, quoi. C'est pas que nous avons une âme, nous sommes des âmes. Et donc nous, comme tu l'as dit, nous sommes, bah, comme tu l'as décrit, quoi, ou comme Krishna le décrit dans la Bhagavad Gita, nous sommes éternels, nous sommes purs, nous sommes remplis de joie, de connaissance, etc., quoi. Mais c'est nous, quoi. Au niveau ontologique, c'est pas qu'on a une âme, c'est que nous sommes ces âmes éternelles.
Tout à fait. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la nature matérielle, en fait, en fonction de nos actions, tout ça, ça vient recouvrir l'âme d'une espèce de gangue. Et l'âme est prisonnière déjà dans ce corps et dans cette gangue de
Ça veut dire quoi, une gangue?
Soit d'ignorance, soit de passion.
Je suis désolé. Gangue,
c'est une.
Ayant grandi à Los Angeles, moi, en fait, je connais que les. Je connais les Crips. Je connais les Crips et les Bloods. Je sais pas le nom de gang en France, mais ça veut dire quoi? Je suis sérieux, j'ai jamais entendu ce mot.
Okay. Elle est recouverte d'une enveloppe, en fait, si on veut, on peut dire par cette nature matérielle, en fait, et du coup, elle est prisonnière de certains conditionnements, de certains et de certains anartha, de certaines marques.
Qu'est-ce que tu veux dire par anartha? Parce que voilà. Y aurait peut-être des auditeurs là qui savent pas ce que le mot anartha.
C'est des empreintes. Moi, je sais pas comment tu dirais ça, Cyril. Moi, je dirais que c'est des empreintes karmiques qui sont laissées sur le corps subtil, en fait, peut-être.
Ça, c'est peut-être pas le mot samskara. À ce que j'ai compris, le mot sanskar.
Qu'est-ce que tu entendrais par anartha, toi?
Moi, j'entendrais plutôt, c'est plus des attachements, quoi, des fautes, des attachements matériels, des sortes de comment dire en anglais? Comment est-ce qu'on dirait en anglais? Parce que toi, tu étais courant en anglais aussi, des a blemish, a blemish.
Je sais pas, non.
Ça, c'est une sorte de. Une tache, tu vois. Une tache sur l'âme. Une sorte de. D'une impureté. Ouais, une impureté. Anartha. Quelque chose qui n'appartient pas vraiment à la qualité intrinsèque de l'âme, mais plutôt une sorte d'addition encrustée dessus, sous la forme de désirs égoïstes, sous la forme de. Ouais, surtout de désir, parce que là, on parle de nettoyer le cœur, et donc je crois qu'il y a cette notion, enfin, il faut faire le parallèle avec une condition émotionnelle ou psychologique égoïste, quoi. Quand je cherchais le mot pour blemish en français, c'est un défaut, quoi, une imperfection, une souillure. Non, tu vois pas comme ça, c'est pas ça qu'on a sur l'âme, ou que sur nous.
Oui, mais c'est vrai qu'on peut rappeler que d'après les Védas, l'âme est dans le cœur, elle constitue le dixième de la pointe d'un cheveu, je crois que c'est dit dans les textes, Cyril.
Ouais, elle est belle cette analogie.
Et
un point de cheveu,
tu... dans le cœur, avec le... Tu le coupes en 10 000.
Tu le coupes en 10 000 et après de nouveau en 10 000.
Elle est présente avec l'âme suprême. Elle est présente dans le cœur avec l'âme suprême qui est là comme témoin et qui regarde... C'est l'image des deux oiseaux sur la branche. Il y en a un qui mange les fruits, donc qui est l'âme conditionnée, qui est nous, en fait. Et l'autre qui est le paramatma, qui est l'âme suprême, qui regarde ce que cet oiseau fait, en fait. Et donc on a ces deux... Enfin, il y a l'âme suprême et l'âme qui est notre entité, qui sont dans le cœur et qui sont recouvertes par toutes sortes, comme tu disais, Cyril, par toutes sortes de qualités, de défauts, de résultats d'action, de...
Je crois que c'est un bon point, ce truc de résultats d'action. Je crois que c'est un bon point que tu soulèves, parce qu'il y a cette idée de... Bah, comme on en a parlé dans le premier podcast, l'idée que l'âme, que nous réincarnons vie après vie, et on ne peut pas ne pas agir. Donc, on est obligé d'agir, donc d'où le terme karma. Et chaque action engendre sa réaction. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir le cœur sale ? Parce que nettoyer le cœur, ça implique que le cœur est sale. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu veux nettoyer quelque chose si ce quelque chose n'est pas sale, quoi ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement d'avoir une conscience ? Parce que quand excuse-moi, hein, je crois qu'il y a un délai.
L'âme parfaite. Il y a un léger décalage, oui.
Ni toi et moi, on ose parler maintenant. Mais qu'est-ce que tu veux dire par... Ou qu'est-ce qu'on voudrait dire par... cœur sale.
Donc l'âme est parfaite, en fait, et complètement inaffectée, mais la nature matérielle, elle est imparfaite et il y a une forme de souillure. Enfin, j'aime pas trop le souillure. Enfin, le mot souillure, c'est un peu... Donc elle est recouverte d'ignorance et toutes ces choses de la nature matérielle qui n'est pas parfaite. Et donc, pour retrouver notre nature éternelle, faite d'être de conscience et de félicité et d'éternité, il nous faut retirer en fait cette enveloppe qui est imparfaite. Effectivement, on peut parler de souillure et qui recouvre l'âme, en fait. Et donc, pour cela, il y a des méthodes, Cyril. Donc on va aborder ces méthodes maintenant.
Ok, tu veux déjà aborder
les méthodes.
Est-ce que je peux juste dire un dernier truc sur l'aspect, disons, théorique de la chose?
Oui, je t'en prie, vas-y.
Ok. Parce qu'on n'a pas trop touché au niveau, disons, psychologique ou émotionnel. Il y a cette notion dans la tradition dévotionnelle, dans toutes les traditions dévotionnelles, je dirais, en particulier celle que l'on suit, toi et moi, celle de la bhakti, que avec une ignorance, un rejet ou une ignorance, hein, de Dieu, avec ça vient automatiquement un désir perverti de vouloir contrôler autrui, de vouloir contrôler la nature matérielle et de vouloir contrôler autrui. Il y avait ce groupe des années 80, je ne sais pas si tu te souviens, enfin toi et moi, on est quand même plus ou moins de la même génération, il y avait ce groupe pop des années 80, Tears for Fears, et ils chantaient cette chanson « Everybody wants to rule the world ». Et c'est un peu ça, quoi. Tout le monde veut dominer le monde, dominer autrui. Et c'est cette tendance, donc, à vouloir dominer autrui, dominer la nature matérielle dans laquelle on est, qui est la chose qui est principalement à être lavée, qui doit être nettoyée, quoi. Voilà, je voulais juste ajouter ça.
Oui, parce qu'on est sous le voile de l'illusion, en fait. Donc, comme on a oublié notre rapport à Dieu, on se prend pour le suprême Purusha, le contrôleur.
Voilà, le contrôleur, j'adore. On se prend pour le contrôleur suprême. Exact. On se prend pour Dieu, quoi.
Oui.
Mais alors, si je peux, avant...
Toute cette tendance plus ou moins...
Excuse-moi. Il y a un délai aujourd'hui. Hein. Excusez-nous pour ce délai, ceux qui écoutent, mais bon, on fait avec. Hein. Vas-y, s'il te plaît.
Donc oui, pour se libérer de cette illusion d'être le contrôleur suprême, alors qu'on est juste des petites âmes insignifiantes perdu dans ce monde matériel, en fait, il faut retrouver notre véritable identité en tant qu'âme et notre relation à Dieu, en fait, et retrouver ce lien à Dieu pour pouvoir retrouver notre condition originelle en relation avec Dieu. C'est important de nettoyer le cœur et voilà. Et donc, pour nettoyer le cœur, nous, on utilise le mantra dont on a déjà parlé, qui est Hare Krishna, en fait, et puis des jeûnes prescrits pour nettoyer le cœur, et puis l'écoute des divertissements du Seigneur aussi. Voilà, parce que dans notre voix, on connaît le Seigneur dans son intimité, en fait, on peut dire. Voilà.
Laisse-moi retourner à un truc. Détour, parce que tu as touché sur un point qui est important, je trouve, cette idée que selon la Bhagavad Gita, selon les enseignements du Bhakti Yoga, chaque âme est, comme tu dis, toute petite, infinitésimale. Et donc, cette notion de nettoyer le cœur ou de l'autoréalisation, de s'éveiller, etc., est souvent interprétée par, disons, l'école concurrente de l'école Bhakti, notamment l'école non-duelle, non-dualiste. Dans le cercle de l'hindouisme, on peut parler de l'école Advaita Vedanta par Shankaracharya, mais ça existe aussi dans le christianisme, dans l'islam. Tu as des maîtres comme Meister Eckhart dans le christianisme ou les soufis dans l'islam. Les juifs, je ne connais pas trop, mais il y a toujours cette tendance vers le non-dualisme. Où donc, quand on nettoie le cœur et qu'il a été, notre conscience a été nettoyée, etc., ultimement, on se rend compte qu'on n'est pas, comme tu dis, des petites âmes infinitésimales, des serviteurs éternels de Dieu, mais que nous sommes Dieu. Et j'aimerais bien qu'on parle un peu de ça.
Alors ça, c'est une erreur fondamentale, parce que si on était Dieu, on serait le témoin, on serait dans le cœur de chacun, on serait le paramatma, et on verrait ce qui se passe chez chacun, ce qui est loin d'être notre cas. C'est pas qu'on est, enfin, on est une âme, donc on a une origine parfaite, en fait, mais on peut pas se prendre pour Dieu. On peut réaliser son lien à Dieu. Si on était Dieu, on pourrait faire n'importe quoi, en fait. Il y aurait aucun obstacle, en fait. Puis d'ailleurs, on ferait n'importe quoi, probablement. Effectivement, pendant 3 ans, je fais les prières avec un groupe de religieux soufis. On peut pas trop révéler les secrets, mais ils disent, ultimement, on a un face-à-face avec Dieu, et ils se disent, et là, ils se rendent compte que c'est nous, en fait. Alors, voilà. Moi, ça me pose un peu problème, c'est-à-dire que...
Voilà. Dans le Bhakti Yoga, ultimement, il y a la réalisation que tu es face à Dieu, face à face. D'ailleurs, il y a ce texte, le Brihat Bhagavatamrita, écrit par Sanatan Goswami, qui raconte l'histoire de l'âme errante, en fait, qui retourne au royaume de Dieu. Et là, c'est décrit en noir et blanc, quoi, que l'âme, dans sa forme éternelle et spirituelle, voit Krishna ou Dieu face à face, quoi. Et quand l'âme voit Dieu face à face, c'est pas qu'elle se rend compte que en fait, je suis toi ou je suis ça. Mais non, c'est plutôt « Waouh, t'es mon maître éternel, t'es mon seigneur éternel, t'es mon ami éternel, t'es mon amant éternel, t'es mon parent éternel et je suis en relation éternelle avec toi. » Il y a le relationnel qui ne se perd jamais, n'est-ce pas? Moi, c'est ce que j'adore dans la Bhakti.
Oui, exactement. Parce qu'on est éternellement une entité distincte de Dieu, mais on peut s'associer à Dieu, en fait. Voilà.
Ouais, s'associer à Dieu sans perdre notre identité, quoi.
Donc on est éternellement distinct, sans perdre notre identité. Et on avait parlé dans un des épisodes du corps spirituel qu'on peut ensuite revêtir. Enfin, on a un corps spirituel qui nous attend, qui est éternel et qui qui est de qualité similaire à Dieu, mais qui n'est pas l'équivalent de Dieu, en fait. Voilà.
En revenant à nous ici-bas, et avant d'aller à la pratique même de comment nettoyer le cœur, comment est-ce que cette tendance à vouloir contrôler autrui, à vouloir être l'imposteur de Dieu, comment est-ce que ça se manifeste? Moi, il y a un truc à laquelle je pense, c'est par exemple la jalousie d'autrui, l'envie d'autrui, quoi.
L'envie, oui, bien sûr.
Je suis jaloux de toi parce que tu as plus d'argent que moi, ou tu es plus belle que moi, ou tu as un meilleur... t'as un mari et moi j'en ai pas, ou toi t'as une épouse et moi j'en ai pas, t'as des beaux enfants, moi le mien est handicapé, ou, t'as toujours plein d'amis, t'es super connu, moi j'arrive pas à être populaire. C'est la jalousie, l'envie, on peut dire que ça c'est un truc à nettoyer, quoi.
Oui, c'est ça, tout à fait, parce que quand on est vraiment dans l'âme, en fait, quand on vit dans l'âme, on se sent satisfait en soi-même, mais on a besoin de rien, on n'a pas besoin de se comparer aux autres pour briller, en fait. Donc on brille par nous-mêmes, et puis on se rend compte qu'il y a plus grand que nous, qu'il y a Dieu, et on veut s'associer du coup à cette vérité suprême, en fait, tout simplement. Voilà, je pense que c'est aussi simple que ça, quoi, en fait.
Et la concupiscence? Parlons de ça quand même, parce que je crois que cette notion de nettoyer le cœur... et d'ailleurs, avant qu'on finisse, j'aimerais bien qu'on parle du premier verset du Shikshashtakam. La semaine dernière, on a parlé du Seigneur Chaitanya. Et Thierry, toi, tu as lu les 8 versets connus, donc écrits. Ah pardon, il y a un alarme qui sonne là. Donc ce premier verset des 8 versets écrits par Sri Chaitanya, par le Seigneur Chaitanya lui-même, qui est donc, on le dit rapidement, Radha Krishna combiné et apparu en 1486 comme on le croit. Et donc il y a cette notion très claire de Cheto Darpana Marjanam, quoi, de nettoyer le miroir de la conscience ou le miroir du cœur. Mais avant d'aller à ça, est-ce qu'on peut parler un peu à propos de la relation entre la sexualité et le nettoyage du cœur, cette notion de pureté de conscience et de la sexualité, comment est-ce que ça d'ailleurs, on devrait en parler, en faire un podcast à part entière, quoi, mais peut-être en guise de petite introduction, hein. Quelles sont tes pensées dessus?
Alors oui, quand on est identifié à notre corps physique et qu'on se dit, bon ben voilà, je suis Georges Thierry, j'ai 42 ans, je suis un homme, et... Du coup, on s'identifie à la nature matérielle et du coup, on est attiré par des femmes, voilà.
Ou par des hommes.
Ou par des hommes, oui, parce qu'on veut.
Tout ce qu'on veut.
et voilà, mais c'est des choses de la nature matérielle, effectivement, où on est tous attirés soit par le sexe opposé ou par d'autres entités, tout simplement.
Est-ce que tu avais entendu parler d'un moine, un leader spirituel dans le mouvement Hare Krishna, qui est décédé il y a environ 10-15 ans, 10 ans environ, qui s'appelait Bhakti Tirtha Swami?
Oui.
Un Africain-Américain d'origine de Cleveland qui est devenu donc un des disciples de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada dans les années 70 et qui a fait énormément de outreach, comme on dit en anglais, qui a vraiment propagé le Bhakti Yoga, y compris en Afrique, quoi. Et il est devenu d'ailleurs le maître spirituel de carrément de chef d'énormes tribus zoulous en Afrique. Mais bref, il a écrit un de ses livres, c'était un livre qui avait un titre, je ne sais pas si tu te souviens, qui s'appelle « Turning Lust into Love
». Oui, parce que nous, on est complètement égaré dans ce monde, c'est ça, tout à fait. Je ne sais pas qu'il était mort, Tirtha Maharaj, mais...
Ouais, il est mort.
J'ai regardé ses classes. Et oui, c'est ça, on est des âmes égarées, en fait, dans ce monde matériel. Et puis, on est attiré par d'autres jivas, on s'associe à d'autres jivas.
Âme, hein, le mot jiva, c'est donc un mot pour d'autres entités.
Pour âme, on fonde des familles avec ces jivas. On vit sous le voile de l'illusion d'une certaine façon, parce que on est là parce qu'on n'a pas conscience parce qu'on veut briller par nous-mêmes et qu'on n'a pas conscience qu'on est plus que ça.
Et cette notion, excuse-moi, mais cette notion de concupiscence transformée en amour ou retransformée, turning lust into love, c'est relié donc avec ce désir sexuel de vouloir contrôler autrui, on peut dire, est un symptôme de la nature, de notre nature pervertie en tant que rebelle, en tant qu'ignorant de Dieu. Et donc le processus, et donc on en vient à cette pratique quotidienne de comment purifier le cœur, etc. Cette dynamique de transformer donc le cœur sale qui est symptomisé par la jalousie, par exemple, l'envie, la colère, la concupiscence, et la transformer en amour pour Dieu, ou la ré-transformer si on croit qu'il y a déjà un amour pur pour Dieu qui est là intrinsèquement chez nous. Eh bien, ce processus de lavage de cœur nous ramène ou nous amène à un état où il n'y a plus de concupiscence, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus d'envie, mais plutôt il y a de l'amour pur envers Dieu.
Oui, la bhakti, c'est quelque chose de pas facile à acquérir, mais qui permet de se relier et qui permet de progresser plus rapidement, parce que sinon, la concupiscence, oui, c'est ça, on veut tirer avantage des êtres et des choses de ce monde, en fait.
On en parlera une autre fois, hein, à propos de la sexualité.
Et donc, pour en venir au processus pour nettoyer le cœur, Cyril, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, nous, on récite beaucoup le mantra Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, 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 Hare Hare. Et puis, il y a des jours de jeûne prescrits, qui sont les Ekadashi, qui sont le 11e jour après ou avant la pleine lune.
Mais est-ce que c'est tellement important? C'est vrai que toi, d'ailleurs, Ekadashi, c'était hier, on l'a fait, et tous les gens qui pratiquent le Bhakti Yoga le suivent plus ou moins. Et d'ailleurs, on parlait, tu sais, du Seigneur Chaitanya la semaine dernière. Est-ce que tu sais que c'est mentionné qu'il a donné une seule instruction à sa mère, le Seigneur Chaitanya? Et tu sais laquelle c'était?
Non, vas-y.
C'était, s'il te plaît, suis Ekadashi. Suis ces deux fois dans le mois où on mange pas de graines et pas de légumineuses. Intéressant.
C'est vraiment nécessaire, ces jeûnes, parce que sinon on est vite recouvert par l'ignorance et les couches s'accumulent et
ça. Mais quand même, on peut quand même dire que, enfin, à mon avis, peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, c'est mon opinion à moi que le chant quotidien des noms de Dieu. Dans notre cas, en particulier, comme tu l'as dit, le mantra Hare Krishna, mais bon, n'importe quel nom de Dieu, le récit quotidien des noms de Dieu, ça quand même, ça constitue l'agent purificateur par excellence quand même.
En cet âge, c'est la méthode prescrite et donc on a tout intérêt, les gens d'intelligence ont tout intérêt à adhérer, enfin, on ne peut pas dire ça, c'est un peu prosélyte, mais enfin, on a tout intérêt à adhérer à ces principes qui est la méthode actuelle pour nettoyer le plus efficacement. Parce que la méditation, dans l'âge d'or, la méthode prescrite, c'est la méditation. Mais nous, on a dans cet âge, on a le mental tellement
pris
par les femmes ou par des objectifs personnels qu'on a énormément de mal à méditer. On peut faire un peu de méditation, mais on n'a pas les résultats qu'on aurait à l'âge d'or, en fait. Donc là, la méthode prescrite, c'est tout simplement de chanter ce mantra dont on vous parle. Et c'est ce qu'il y a de... C'est une méthode simple. Et puis, avec toujours une progression, parce qu'on peut le réciter de mieux en mieux, de plus en plus en connexion avec le divin, et ça nettoie de plus en plus. Et on peut nettoyer des milliers... On parlait de la réincarnation, mais on peut nettoyer des milliers et des milliers de karma, de vie passée, de choses qu'on trimballe depuis des vies et des vies, quoi, en fait.
Ouais, ça, et c'est là, je crois que c'est un bon moment où faire référence à ce premier verset énoncé, écrit par le Seigneur Chaitanya, dont on a parlé dans la vidéo précédente, où il dit cette fameuse phrase, c'est d'ailleurs le premier mot de ce texte sublime, « Cheto », qui vient du mot « citta », donc « conscience »,« Cheto », Darpana Marjanam, le lavage, le nettoyage du miroir de la conscience.
Oui. D'ailleurs, on invite tout le monde à essayer de rester ce mantra. Les effets sont assez, sont très visibles. Enfin, tous ceux qui essayent.
Et en chantant, en entrant en contact avec le saint nom de Dieu, nous, notre conscience devient purifiée. Et c'est logique d'un point de vue philosophique. Si Dieu, par définition, est pur, absolument pur, infiniment pur, la pureté par excellence.
Et donc, si on récite son nom qui est Avatar, évidemment. Et d'ailleurs, un des symptômes, c'est les larmes qui coulent, en fait, quand on récite vraiment le mantra. Et qui la purification aussi.
En parlant de cœur, d'ailleurs, tu me fais penser à un verset qui apparaît dans le deuxième chant du Srimad Bhagavatam, un autre texte, le roi, en fait, le roi des textes védiques. Et dans le deuxième chant, il y a ce verset connu qui dit que si quelqu'un, tout en récitant, en chantant les saints noms de Dieu, ne ressent pas de changement, et s'il n'y a pas, comme tu le dis, de larmes qui lui tombent des yeux, on peut conclure que son cœur est fait de fer, d'acier.
D'ailleurs, comme pour la souffrance qui fait verser des larmes et qui du coup purifie le cœur, le symptôme de réciter le nom de Dieu qui est la pureté absolue, ça fait aussi nettoyer le cœur en versant des larmes. Enfin, l'analogie est assez intéressante, c'est-à-dire que la souffrance fait, oui, ça fait pleurer. Quoi.
Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais bon, quand même, ça fait 27 ans que je récite le mantra Hare Krishna tous les jours. Et avoir des larmes aux yeux, surtout quand j'étais plutôt dans un groupe de gens qui chantaient les noms de Dieu ensemble de manière musicale, ça m'est arrivé peut-être une poignée de fois quoi, dans ma vie depuis 25-27 ans. Et des larmes aux yeux en récitant le même mantra, mais de manière un peu plus silencieuse et méditative avec un chapelet digital ou un chapelet en bois. Ça m'est arrivé à carrément avoir des larmes aux yeux. Pour te dire, moi, ça m'est arrivé encore moins, quoi. Bon, heureusement, le but, ce n'est pas avoir des larmes. Le but, c'est d'avoir de l'amour pour Dieu. Et si Dieu nous donne des larmes aux yeux, super.
Parce qu'on est souvent dans nos préoccupations intérieures quand on récite le mantra, c'est ça le truc, en fait. Voilà.
Et il y a beaucoup à nettoyer, quoi. Je veux dire,
il y a beaucoup à nettoyer pour tout le monde. Et moi, on croit qu'il y a à nettoyer.
On se réincarne depuis, théoriquement, quoi. Dire, on se réincarne depuis des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'incarnations. Et à chaque fois, c'est We just want to rule the world. Dans chaque incarnation, imaginons, quoi. Dans chaque incarnation, on est là à essayer d'exploiter autrui, d'exploiter la matière, à penser qu'à nous. Et cette tendance égoïste s'accumule, s'encroûte de plus en plus sur notre conscience. Et là, finalement, des milliards d'incarnations plus tard, on est là dans un corps humain. Par une chance, par une miséricorde divine, on entreprend le chemin de l'autoréalisation, de la réalisation de Dieu, et on entreprend donc ce processus qui, pour nous, est très important, recommandé, comme tu le dis, de chanter les saints noms de Dieu comme processus de purificateur par excellence, mais ça prend du temps. C'est-à-dire les incrustations, les impuretés, elles prennent du temps à être nettoyées, quoi.
Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'attitude à corriger, en fait, parce que c'est notre attitude qui est souvent pas bonne. On manque d'amour pour Dieu, on est très égoïste, on pense qu'à ces petites gloires, ces petits, et c'est vraiment tout un travail de correction de l'attitude et on doit avoir une attitude de service et de dévotion envers Dieu, en fait, tout simplement.
Est-ce que tu crois qu'au niveau, disons, plus large, un peu plus méta, au niveau sociétal, civilisationnel, si ça se dit, est-ce que tu es d'accord que beaucoup de maux, beaucoup de problèmes politiques, culturels, des conflits, des guerres, le racisme, etc., etc., disparaîtraient énormément si on s'y mettait tous à nettoyer nos cœurs, en commençant avec les politiciens et les leaders et en descendant jusqu'au simple nettoyeur dans la rue?
Oui, évidemment. La plupart des gens, ils voient la faute chez l'autre, en fait, toujours. C'est toujours la faute en l'autre. Et si chacun se nettoyait, effectivement, on arriverait extrêmement rapidement à un nouvel âge d'or, en fait, tout simplement.
Donc la solution est spirituelle, quoi.
si on arrêtait aussi l'abattage des animaux, si on suivait les principes, parce que c'est pas tout de nettoyer le cœur, mais il faut aussi arrêter de commettre des...
Je crois que le plus le cœur est nettoyé, le plus la conscience est pure, je crois qu'automatiquement, l'homme, en général, cesse d'être violent envers autrui, cesse d'être, est beaucoup moins, disons, concupiscent, et beaucoup moins envieux, etc. Donc, je crois que ça, c'est des sortes de trucs secondaires qui se manifestent presque automatiquement comme résultat d'une purification de conscience.
Oui.
Bon, ben je crois qu'on a fait le tour de l'affaire. T'as d'autres choses à ajouter à la table ?
Non, oui, je crois qu'on a fait le tour, effectivement. Donc, éviter de commettre des fautes et puis nettoyer un maximum, parce que tant qu'on a la chance d'être conscient de ces voies spirituelles dont on parle, autant en profiter pour faire un nettoyage et pouvoir rejoindre notre nature éternelle le plus rapidement possible, en fait, tout simplement.
Et qui nous permettra aussi longtemps qu'on est dans ce corps, dans ce monde, avant de mourir, d'avoir des relations avec autrui, comme on le dit à chaque fois au début de notre podcast, des relations qui sont beaucoup plus douces, qui sont beaucoup plus désintéressées, qui sont beaucoup plus tolérantes, beaucoup plus compassionnées. Et c'est beau, ça. Je veux dire, quand tu arrives à... Moi, je vois, hein, moi, dans ma vie, quand je vis une vie, disons, pas très morale, ou quand je fais des actions qui pourraient être répréhensibles d'un point de vue du dharma, je vois que tout de suite, ma conscience est moins compassionnée envers autrui, moins tolérante, moins gentille, moins en harmonie et moins sensible envers autrui, quoi.
Oui, bien sûr.
Bon. Et contrairement, le plus on est purifié dans notre conscience, eh ben le plus on est heureux, on est satisfait et on peut rayonner cette joie. Il y a cette notion chrétienne que j'aime beaucoup de remplir ton verre, de remplir ta tasse, quoi. Si ta tasse est remplie, ou si ta conscience est purifiée, si tu es en union avec Dieu, eh ben tu peux rayonner ce même amour avec autrui. Mais si ta tasse elle est vide, eh ben,
oui, tu peux voir Dieu en chaque être, effectivement, oui, tout à fait.
Et c'est ça, moi, je veux pas me moquer ou je veux pas critiquer trop, mais je vais faire une petite observation vis-à-vis, par exemple, tu sais comment on dit, du self-help, comment on dit en français, la catégorie de self-help, du développement personnel. Alors, tu as pas mal de leaders dans le domaine du développement spirituel qui font aucune référence à Dieu. Et moi, je trouve que, d'accord, il peut y avoir des techniques ici-bas de comment mieux gérer notre vie, mieux...
C'est vrai que dans le développement personnel... Les analystes, tout ça, en général, c'est des objectifs très égoïstes, en fait, en général, et du coup, complètement déconnectés de Dieu.
Et surtout, quand on parle de cette notion d'avoir compassion pour autrui, d'être généreux, d'être gentil, d'être détaché, moi, j'ai des doutes qu'on peut vraiment atteindre des niveaux profonds de détachement, d'amour envers autrui, de compassion, etc., sans être connecté à Dieu.
Oui, et sans connaître notre âme. J'ai un rendez-vous, là, il y a quelqu'un qui vient frapper à ma porte.
C'est Orange, faisons une publicité. Donc pour vous, si vous n'avez pas encore votre service internet, bien sachez que
vous pouvez avoir. Voilà.
Bon. Le podcast est sponsorisé par Orange, donc allez sur...
Bon,
ok, on vous quitte.
Au revoir.
On s'est terminé assez rapidement. Merci d'avoir écouté, les mecs. Et à la prochaine sur Dieu et nous. Ciao.
Au revoir. À très bientôt.